Français.
Sauf événement imprévu.
Les rumeurs, les calomnies, les ragots.
Les armes vont parler.
Voilà, retour dans nos studios en compagnie de Christian Jean-Jean, député. Non, pas député, j'allais dire député
encore,
maire.
Encore.
Non, j'allais dire député maire de Palavas. Maire de Palavas, les flots. Enfin, qui fut député quand même, avant de laisser la place à Jacques Domergue. Et donc, candidat sur la première circonscription. Et puis, Sébastien Denaja sur la septième circonscription, au titre du Parti Socialiste. Mais on va revenir un petit coup sur le passé dans la série Souvenirs. Enfin, tout ça n'est qu'un vieux rêve partisan. Vous savez, sur les rives outre-Atlantique, tant au Royaume-Uni qu'aux États-Unis, le bipartisme s'est installé naturellement. Même outre-Rhin et au-delà des Alpes, le dualisme politique s'est imposé lentement. Mais ni les uns ni les autres n'avaient eu le bonheur de vivre les riches heures de la Révolution française et de sa dimension ternière. Pourtant, d'une république à l'autre, quelques tentatives binaires s'infiltrèrent dans le débat. Et récemment, au cours de ces 10 dernières années, droite et gauche s'y sont essayés. À droite, le RPR a tenté et presque réussi une véritable OPA sur l'UDF en 2002. Ce fut l'invention, la création de l'UMP chiracienne au lendemain du séisme du 21 avril. À gauche, le PS a quelque part transformé l'essai en 2011 par le biais de primaires ouvertes à gauche. Pourtant, des forces centrifuges perturbent ce beau schéma et ces forces-là font front, dans tous les sens du terme, au point de tenter de réinventer la fameuse bande des quatre. À ce sujet, le renard, à propos des législatives, a peut-être un petit mot à dire.
Non, moi je voulais dire un petit mot, mais pas obligatoirement sur ce sujet, parce qu'effectivement, là j'ai collé à l'actualité, puisque hier les Français de l'étranger se sont exprimés.
Pour les législatives.
Pour les législatives, oui, et que c'était une situation qui est inédite, hein, qui a été rendue possible par la révision de la Constitution en juillet 2008. Parce que jusque-là, c'était les sénateurs qui représentaient les citoyennes de l'étranger. Donc ça concerne quand même 1,1 million d'électeurs qui étaient donc appelés à voter aux urnes. Alors, le pourquoi de cette situation, bon... d'après le député UMP, là, Charles de Verpillière, bon, c'était pour ne pas perdre le contact avec eux, de faire rayonner la France sur le plan économique et culturel, ce qui était bon, une bonne chose. Mais il a été dit aussi que, et notamment par la bouche de la sénatrice socialiste qui s'occupe des Français à l'étranger, Claudine Lepage, que, ma foi, il y avait des possibilités derrière au PC et qui auraient guidé, justement, le découpage électoral. Bon, les résultats de la présidentielle pourraient éventuellement lui donner raison, puisque sur ces 11 députés, bon, Nicolas Sarkozy est arrivé en tête au second tour de la présidentielle récemment. Et que hier, d'après les prévisions de résultats de vote au premier tour des législatives, il est à noter deux choses. En fait, moi, je note deux choses. La première, c'est qu'il n'y aurait eu une participation que de 20 à 25%, alors qu'elle était de 48,5% au deuxième tour des présidentielles. Et que, dans ces 11 circonscriptions, le Parti socialiste arriverait en tête d'un 8 sur 11. Alors, la question, comme c'était l'actualité, la question que je voulais poser à tous deux, c'était à savoir, est-ce que c'est indicatif, est-ce que c'est épisodique, ou est-ce que c'est indicatif, disons, de ce qui peut se passer dimanche et le dimanche d'après.
D'autant que s'il n'y avait que 20 ou 25% d'électeurs, vu qu'il faut 12,5 des inscrits pour se maintenir au deuxième tour.
Les deux premiers sont quand même automatiquement qualifiés.
Oui,
ça pose un problème pour le troisième.
Non, donc il y avait
25 000.
Donc il n'y a pas de... C'est sûr qu'avec ce... Il ne peut pas y avoir de triangulaire ou de représentativité autre qu'effectivement les deux candidats les mieux placés. Voilà. La question qui se pose est la suivante. Bon, pourquoi effectivement il y a ce recul? Pourquoi il y a une faible participation? Est-ce qu'effectivement c'est le signe? Bon, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, cette question-là. Elle était venue un petit peu plus tôt.
Voilà. Mais il y a toujours, s'il vous plaît, il y a toujours une baisse de la participation entre la présidentielle et la législative. Je crois que la dernière fois, on était passé de 84 à 63%, hein, je ne sais plus.
Oui, oui.
Bon, donc il y a toujours une mobilisation moins forte. Mais ici, à cette table, on se rejoint même avec Christian Jean-Jean sur ce point. Pour que la démocratie soit vivante, il faut que les gens se mobilisent, parce que c'est une élection aussi importante que la présidentielle.
Même plus importante.
Même plus importante, oui. Parce que si on ne donne pas une nouvelle majorité au nouveau président, il n'aura pas les moyens d'agir. Bon, donc il faut donner une majorité au président Hollande. Et ce que ça traduit quand même, malgré la faible participation, c'est qu'effectivement, la dynamique, eh bien, elle est du côté de la majorité présidentielle. Dans des circonscriptions, effectivement, où on pouvait penser que ce serait l'UMP qui serait favorisé, finalement, effectivement, 8 candidats socialistes sont arrivés en tête. Un a même frôlé l'élection dès le premier tour, puisqu'il a fait 49,8%, je pense à Pourrière Mirchaï. Donc, je pense que ça donne une indication sur le travail que nous, politiques, et vous, médias, avez à faire sur la mobilisation des électeurs, parce que l'enjeu est important, mais en même temps, ça donne une indication sur le fait que la dynamique, elle est du côté de la gauche, elle est du côté de François Hollande, elle est du côté de la majorité présidentielle. Et oui, il va y avoir, je crois, des déceptions côté UMP.
Oui. Excusez-moi d'avoir fait diversion.
Oui, oui, oui. Oui, non, oui. Et on va y revenir à la question UMP et puis PS, et sur le fait de cette idée qui vient d'outre-Atlantique, Angleterre et puis États-Unis, c'est d'avoir un parti de gauche et puis un parti de droite. L'UMP l'a réussi, enfin l'a réussi à partir de 2002, c'était quand même le but d'avoir un parti de droite. Le PS, Rocard l'avait imaginé en 93. Avec le Big Bang, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Mais avec, par contre, la primaire, qui n'était pas des primaires socialistes, mais des primaires de gauche, oui, il y a eu comme une espèce d'unité, au moins pour un temps. Alors moi, ce que j'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu, c'est comment ça se passe. Alors, la vie à l'UMP aujourd'hui, avec tous ces courants centrifuges, parce que là, on voit, hors des grands bonshommes, Juppé, Copé, etc. Tout le monde se tire à vue dessus. OPS, et notamment ici, particulièrement dans l'Hérault, en Languedoc, où là, c'est les frères ennemis, quoi. Entre les anciens fréchiens, hein, ceux qui y sont encore, ceux qui n'ont plus été, les aubristes, les pas-aubristes, les pro-Navarro, les anti-Navarro. C'est pas si facile que ça, quand même, l'unité réelle. Alors, comment est-ce que vous le vivez, ça, vraiment, au quotidien ? Christian Jean, t'as été un des premiers dissidents, en quelque sorte, UMP, justement.
Je vais répondre quand même, reprendre un petit peu la conversation que nous avions tout à l'heure. J'ai entendu Sébastien Denaja dire qu'il y avait une véritable... Une formidable marche en avant des socialistes et autres sur les Français, le vote des Français à l'étranger. Alors, excusez-moi, mais s'il y a 20% de Français à l'étranger qui sont allés voter, je ne vois pas quelle est véritablement cette explosion de trucs. Donc, on n'a pas ni l'un ni l'autre à se féliciter d'un vote aussi restreint, et j'en suis navré parce que je crois que là véritablement les fondements de la démocratie ne sont pas établis. La deuxième chose, c'est que je le répète, il va falloir qu'on change de sujet, parce que j'essaie de vous démontrer, mais je comprends qu'on essaie de faire on n'aime pas trop les réponses directes et claires, mais je vais quand même la redonner, ma réponse directe et claire. Il y a actuellement 11 candidats dans la première circonscription. Il y a 11 candidats de gauche et il y a un candidat de droite, c'est moi. Donc je cherche où est la division.
Vous avez rangé le candidat du FN à gauche ?
Je cherche. Ah non, le candidat du FN, il est là, mais il se représente. Mais moi, je me présente en tant qu'UMP, il n'y a pas de division à ce niveau-là. Je représente les centristes, l'alliance centriste, et donc par conséquent, le centre et l'alliance centriste. L'UMP, il n'y a aucune division chez nous, et ça se verra d'ailleurs au résultat. Donc par conséquent, allons chercher ailleurs. Il faut attaquer d'autres sujets maintenant, parce qu'il n'y a pas de division. Alors après... Les socialistes, eh ben, ils sont 11. Au deuxième tour, ils vont sûrement se regrouper, c'est certain. Ils se remènent obligés. Mais je le répète, ils vont avoir de grandes difficultés parce qu'il va y avoir de la pression. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés à votre niveau pour se répartir les circonscriptions, notamment avec le front de gauche. Et donc, vous aurez de plus en plus de difficultés, je le répète. Et donc, nous, cette division, pour l'instant, nous ne la connaissons pas. Et c'est pas parce que au mois d'octobre, il va y avoir une élection à l'UMP pour désigner le chef le grand patron, mais ça c'est tout à fait les bases de réglementaires, il y a une élection, on va désigner notre patron et après nous partirons sous sa bannière. Et c'est pas, je le dis bien, tous les ce qui me revient, hein, ce que j'ai comme donné, ne m'incite pas à dire qu'il y aura à l'Assemblée une majorité de gauche. Je pense plutôt qu'il y aura Assemblée actuellement, je pense qu'il y aura une majorité de droite.
Alors, rapidement, au niveau du PS local, l'Hérault, le Languedoc, les divisions, elles sont vraiment complètement oubliées. Les haines qu'il y avait entre fréchistes et antifréchistes.
Écoutez, moi, je veux me concentrer sur l'avenir. J'aimerais qu'on parle effectivement de demain et de ce qui préoccupe vraiment les Français.
On va y parler dans la troisième partie de l'émission.
Non, mais c'est intéressant. Mais
Sébastien si on parle... il esquive.
Non, j'esquive pas. Ce qui esquive, c'est par exemple le député sortant de la 7e circonscription de l'Hérault qui met en tout petit le logo de l'UMP tellement il a honte peut-être du bilan qui est celui de la majorité que vous soutenez.
C'est le code Jean-Pierre Grand aussi sur son tract.
Il y a pas mal de candidats UMP qui ont peur de traîner ce logo comme un boulet. Comme l'avait traîné Nicolas Sarkozy lui-même, puisque quand même, leur bilan, c'est leur boulet.
Christian, sur Palavas, au niveau du tract, il y a écrit en gros UMP ou tous les autres, c'est un tout petit.
Moi, je ne cache rien. Je sais perdre, mais je suis toujours fidèle. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que je suis toujours dans la même direction.
Donc c'est bien marqué en gros UMP, quoi.
Ah oui, c'est marqué en gros. C'est visible. C'est même sur le bulletin de vote. Comme ça, jusqu'au dernier moment, personne ne peut toujours se rétracter. Mais au contraire, je pense que ça fait plaisir à tout le monde de voir que nous sommes des fidèles et que nous avons un sens politique.
Moi, je veux aussi être quand même très clair aussi sur la question que vous avez posée. La famille socialiste, aujourd'hui, elle est... rassemblés, et j'en suis moi-même le meilleur des symboles, parce que je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, avec ma suppléante, nous incarnons toutes les familles de pensée du Parti Socialiste. Mais le PS, lui, n'est pas agité comme actuellement l'UMP par des querelles de personnes. Ça fait un siècle que plusieurs familles de la gauche se rassemblent au sein de la grande famille socialiste et avancent là avec la SFIO.
Au-delà du local, Martine Aubry qui traitait de naze Jean-Marc Ayrault il y a encore quelques
semaines.
Ce que je crois,
c'est que nos invités, autant l'un que l'autre, justement... Contrairement à ce que dit Marine Le Pen, ils ont envie, l'un comme l'autre, de dire justement toutes les différences qui peuvent exister entre le PS
et
l'UMP. Et donc, moi, je vous laisse la parole, justement. Effectivement,
on entend bien, depuis le début de l'émission, on entend bien une différence nette qui, entre l'UMP et puis le PS.
Oui, ils viennent de te tendre une bouée. Hein. Ça s'appelle comme ça,
par la base. Non, c'est pas une bouée.
Mais à 7 aussi, on entend quelques bouées de temps en temps. Je sais que Palavas est un port de pêche, mais permettez que le Sétois parle lui aussi de ces choses-là. C'est le plus grand port de pêche de Méditerranée.
Revenons un petit coup à la droite.
J'aime beaucoup cette.
Revenons un petit coup à la droite républicaine. La droite républicaine, est-ce qu'elle a eu raison de refuser de perdre son âme pendant près de 30 ans en ostracisant le Front National du gouvernement des affaires publiques? N'est-il pas venu le temps de corriger le tir? Donc est-ce qu'il ne faudrait pas, là, que l'UMP s'allie avec le Front National?
Je ne vais pas dire ça. Non, je me demandais d'alliance, nous, le Front National ou autre. On n'en est pas là. Chacun se présente de son côté. Je vais avancer dans le raisonnement. Il faut avancer. Je pense qu'autant en ce qui concerne les partis de gauche, l'extrême gauche et autres, qu'en ce qui concerne les partis de droite, d'extrême droite, il faut que nous soyons matures et que nous créions une proportionnelle à l'Assemblée, qui serait de l'ordre de 15 à 20%, parce qu'il n'y a pas de raison qu'à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, il y a des millions de personnes qui sont porteurs de voix et autres, et ces personnes-là ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale. Les courants, quels qu'ils soient, importants, doivent être représentés à l'Assemblée nationale. Et je proposerai, si je suis élu en tant que député, une proportionnelle à l'Assemblée nationale, de façon à ce qu'on règle une fois pour toutes ce conflit. Et vous n'êtes pas le FN, et vous êtes avec Mélenchon, et Mélenchon a difficulté. Mais on s'en sort plus de tout ça. Nous sommes une république... Nous avons une mosaïque. Mosaïque, elle doit être représentée.
Je vais m'adresser à la gauche et puis à Sébastien.
Ben oui.
Parce qu'il y a une problématique qu'on pourrait dire un peu la même. Bon, la droite qui a refusé de s'allier avec le FN, pour, comme le disaient des gens comme Michel Noir à l'époque, il vaut mieux perdre une élection que perdre son âme, bon, ce qui a coûté quelques élections.
Et là, pourquoi vous ne parlez pas de Languedoc-Roussillon là ?
Non, mais oui, sauf Jacques Blanc, sauf Jacques Blanc, en 1998, nous sommes d'accord.
Vous parliez d'histoire, il faut parler d'histoire, ouais, tout alors, à fait. Mais toute l'histoire.
Tout à fait, mais là, au niveau de la gauche démocrate, radicale, socialiste,
temps, il nous laisse pas parler.
Est-ce qu'elle a raison de s'acoquiner avec les communistes, voire avec les Verts, au risque de se décrédibiliser ? Est-ce qu'il n'est pas temps de corriger le tir aussi ? Mais c'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi le Front National serait plus ou moins fréquentable avec l'UMP et que les communistes seraient plus fréquentables.
Mais écoutez, Mélenchon, à ce que je sache, ne représente pas l'extrême gauche.
Alors.
Non mais attendez, d'abord.
Mélenchon n'est pas extrême gauche. Parlez-moi de Poutou, parlez-moi de Artaud.
Mais il va arriver.
Mais aujourd'hui, le Front de Gauche, la composante du Front de Gauche n'est pas l'extrême gauche. C'est un courant différent, disons, de la gauche républicaine.
Oui, mais ça arrange c'est, tout
c'est
le monde.
Une, c'est, non, mais c'est une différence qui est notable. Le jour où, effectivement, Marine Le Pen aura fait une démonstration, ce que, pour l'instant, je n'ai pas vu, entre elle et le mouvement d'extrême droite... entre ses propos, ses discours, ses positions, etc., et puis les discours d'extrême droite, et des corpuscules d'extrême droite, alors à partir de ce moment-là, j'étais dans le même langage de l'autre côté. Oui, mais là, 20, c'est pas le cas.
Il y a 20% de Français qui votent extrême droite.
Oui, hein, ils votent.
Et il y en a presque autant qui votent extrême gauche. Hein, et donc, par conséquent, il n'y a pas de raison. C'est des gens
qui... C'est pas moi tout à l'heure qui faisait référence.
Ils veulent dire quelque chose.
C'est pas moi tout à l'heure qui faisait référence à la confusion. À la confusion qu'il pouvait y avoir à la lecture, disons, ou à l'explication
que l'UMP, du vote du Front National. Que l'UMP règle ses problèmes de famille avec le Front National, surtout ici en Languedoc-Roussillon, surtout en Languedoc-Roussillon.
On ne demande rien, hein.
On ne vous demande rien, mais enfin,
non, on est bien,
c'est,
nous, on a pas
c'est
le problème,
à vous de régler vos rapports avec le Front National. Nous,
proportionnel.
Mais la proportionnelle, mais il y avait eu une révision constitutionnelle en 2008. Pourquoi l'UMP n'avait pas prévu dans la révision constitutionnelle la dose de proportionnelle ? Bon, nous, avec François Hollande, nous avons proposé...
C'est notre programme.
Bah, oui, mais c'est dommage. Vous avez gouverné pendant 10 ans, vous aviez une occasion en or.
Bah, attendez, chacun évolue en fonction de son temps.
Ah oui, oh, bah, à 4 ans d'intervalle, effectivement, on peut évoluer, mais... Vous aviez eu une fenêtre de tir, vous ne l'avez pas utilisée. La révision de la Constitution de 2008 aurait permis la dose de proportionnelle, vous ne l'avez pas fait. Nous allons le faire.
Moi,
je
n'étais pas là. J'étais pas.
Eh oui, c'est vrai que votre ami Domergue vous avait remplacé à votre siège de député. Mais nous, sur la proportionnelle, ça a été très clair, ça a été annoncé par le président Hollande. Il y aura une dose de proportionnelle pour effectivement que l'ensemble des familles de pensée de ce pays soient représentées au Parlement. Et c'est une bonne chose pour la démocratie. Voilà. Mais nous joindrons les actes à la parole.
Vous vous engagez, hein ?
Mais c'est un engagement du président de la République.
Non, mais il faudra aller jusqu'au bout.
Mais nous irons jusqu'au bout.
Voilà.
Et sur nos rapports avec nos amis de gauche, et non pas d'extrême gauche, moi je souscris aux propos qui viennent d'être tenus, il n'y a pas de... c'est pas question, vous avez le verbe très fleuri ici sur Divergence FM, mais on ne s'acoquine pas à Europe Écologie Les Verts et au Front de Gauche. Nous sommes partenaires avec Europe Écologie Les Verts sur un programme de législature, sur la transition énergétique et écologique notamment. Et avec nos amis du Front de Gauche, et en particulier avec les amis communistes, nous avons eu toujours des rapports de respect mutuel.
Faites une différence entre les deux, communistes et Front de Gauche ?
Non, pas du tout. Mais au sein du Front de Gauche, il y a le Parti de Gauche et le Parti communiste. Moi, je vais vous dire d'ailleurs très simplement, je souhaite qu'au lendemain des élections législatives, la majorité parlementaire soit aussi plurielle qu'elle avait pu l'être auparavant et qu'au sein du gouvernement, peut-être, les choses puissent être élargies également. Il y a eu des ministres communistes qui ont honoré notre pays. Je pense notamment à Marie-Georges Buffet, que j'ai bien connue. Et donc, nous, il n'y a aucun problème avec nos amis du Front de Gauche, parce que nous devons aussi...
Des ministres communistes ou des ministres du Parti de Gauche ?
Ça, c'est eux qui le décideront, ça, c'est leurs instances, etc. Je vous dis ce que moi, je pense bon pour notre pays. Je pense que les communistes sont une force utile, et je pense notamment qu'ils l'ont démontré lorsqu'ils étaient au gouvernement, avec Jean-Claude Guessot au transport, qui a fait un formidable travail, notamment pour Sète d'ailleurs, avec l'extension de la digue qui a permis de finir le canal du Rhône à Sète, le travail formidable qu'avait fait Marie-Georges Buffet à la jeunesse et au sport, la loi contre le dopage, etc. Bref, c'est une famille qui a honoré notre pays, et c'est la famille de la grande famille de la gauche, et nous avons voilà, des choses à faire encore ensemble. Et je sais que nous pourrons compter sur eux. Moi, je veux aussi dire que je sais que c'est aussi parce que beaucoup d'électeurs du Front de Gauche se sont mobilisés au second tour de l'élection présidentielle que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un nouveau président de la République. Et donc, il faut que ce chemin aussi puisse continuer.
Alors, il y a un courant politique qu'on n'a pas évoqué pratiquement depuis le début de l'émission. C'est ce qu'on appelait jadis le Marais, autrement dit le centre, incarné par les radicaux sous la Troisième République, par la Troisième Force sous la Quatrième, parfois de l'UDF et du MoDem aujourd'hui. Alors, Sébastien, tu nous disais que tu avais reçu le soutien du MoDem sans l'avoir demandé.
Oui, c'est un communiqué de presse que j'ai lu bon, même dans Midi Libre récemment.
Bon, il semblerait que
je n'ai pas leur logo sur mes affiches ni sur mes tracts. Mais
il semblerait que le centre, qui historiquement depuis la Révolution française a toujours été plutôt un centre droit, nettement affiché, il semblerait que là le MoDem tourne centre gauche. Non.
Non, le centre, il y avait les Valoisiens, et il y a toujours eu une différence au centre, et toujours été manifestée. Sure. Quand j'ai siégé à l'Assemblée, il y avait Bayrou, par exemple, qui était tout le temps en train de soutenir les projets de la gauche. C'est pour ça que quand il a pris position pour Hollande, ce qui nous a quand même mis en difficulté, ça ne m'a pas étonné. Mais ceci dit, c'est dommage, parce que le centre avait une vocation, et c'était toujours un endroit sympathique de politique.
Il avait surtout vocation pour la droite, de permettre à la droite de gagner.
Il avait vocation de modérer et la droite et la gauche, et je crois que c'était un rôle qui était important. Il apportait des idées qui étaient des idées humanistes, et à l'époque c'était quand même intéressant à prendre. Moi je les apprécie beaucoup.
Sur la 7e circonscription de l'Hérault, l'Alliance centriste, qui apparemment vous soutient sur la première circonscription...
Non, pas apparemment, qui me soutient.
Alors, qui vous soutient, pardon, mais je ne connais pas par cœur la situation géopolitique de la circonscription de l'Hérault. C'est pour ça que je précise. Mais ce que je peux préciser aussi, c'est que d'ailleurs, vous voyez, donc ça confirme mon propos, c'est que la division, elle existe bien, en tout cas à droite, sur la 7e circonscription de l'Hérault, puisque le candidat UMP ne bénéficie pas du soutien de l'Alliance centriste, puisqu'il y a un candidat de Jean Arthuis de l'Alliance centriste sur la 7e circonscription de l'Hérault. Donc il y a effectivement un problème particulier apparemment pour la droite locale sur la 7e circonscription de l'Hérault qui mettra sans doute en difficulté le candidat sarkozyste sortant.
Sûrement pas, mais d'un autre côté, vous êtes nombreux à gauche, on l'a déjà dit, mais on ne va pas revenir toujours sur là-dessus.
Moi j'ai une question à vous poser.
Allez.
Est-ce qu'on peut parler de fond aussi?
Non, mais justement, c'est une question qui va un petit peu dans ce sens-là. Bon, moi ce que je veux savoir, c'est de savoir si... les députés UMP, donc vous-même, supportent le projet présidentiel de Nicolas Sarkozy. Est-ce que le projet présidentiel de Nicolas Sarkozy est toujours d'actualité? Et est-ce qu'il est soutenu par l'UMP et les députés qui le représentent? Ou les candidats députés.
Mais bien entendu. Nous soutenons ce projet parce que nous l'avons étudié, nous l'avons préparé tous ensemble et que nous estimons que c'est un projet qui est fait pour véritablement relancer l'économie en France, compte tenu de cette crise que qui était peut-être prévisible, mais qui est arrivée d'une manière très très forte. Bien sûr, nous soutenons le projet.
Y compris...
Sur l'éducation, Moi, par contre, je suis effectivement sur l'augmentation des professeurs des écoles dans la maternelle et dans le primaire, parce que j'estime que c'est tout à fait nécessaire. Je crois que là, véritablement, on a affaire aux enfants, et les enfants doivent avoir un bon démarrage. Mais ensuite, la présence des professeurs pendant quelques heures dans la journée auprès des enfants, je crois que c'est une bonne proposition. Mais il faut le continuer, bien sûr. Et quand on parle de justice, je le dis bien...
Pour les profs, ça relève d'une directive européenne.
Quand on parle de justice, on ne peut pas supprimer la justice pour les enfants. Parce que les enfants, on a tendance à voir les enfants de 7 ans, de 8 ans ou autre, mais il y a des enfants à 14 ans, 15 ans maintenant qui font des choses qui sont tellement graves... Et pas toujours de leur faute, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'il fallait à côté d'eux ou autre. Et c'est pour ça que je suis pour la présence de professeurs des écoles.
Mais pourquoi vous avez supprimé 82 000 postes?
Pourquoi
vous avez supprimé 82 000 postes de professeurs en 5 ans?
On n'a pas supprimé, on a redéployé. C'est pas tout à fait pareil. Et parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des diminutions dans le nombre des élèves et que ces diminutions ont entraîné des suppressions. Mais bon, on peut en discuter. Non,
ça, oui, ça c'est vrai éventuellement en Lorraine ou autre, mais c'est complètement faux. En Languedoc, et particulièrement dans l'Hérault.
Non, mais ma question, si vous voulez, était peut-être un petit peu plus, vous la qualifieriez peut-être de... mais moi, ma question, c'était y compris sur les sujets qui, en fin de compte, ont divisé l'UMEP. À savoir, par exemple, bon, sur quelle était la perception, par exemple, des corps intermédiaires, ou par rapport à certaines oppositions qui étaient très, très proches du Front National.
Bon, on n'a pas eu de... On a... Oui, mais je vais laisser
parler. Oui, moi, il y a deux sujets de fond qui ont été évoqués. Il y a la question de l'éducation. Sur la question de l'éducation... Bon, l'UMP, elle laisse un bilan qu'on connaît. Ils ont supprimé l'année de formation pour les professeurs, ils ont supprimé 82 000 postes, fermé un nombre de classes incalculable avec des politiques délirantes. Je donne un exemple sur ma circonscription, sur la 7e circonscription de l'Hérault. Le gouvernement ouvre une classe à Puy-Salicon, un petit village de la 7e circonscription du canton de Servian, et puis l'a fait fermer, prévoit la fermeture au mois de juin. Pendant ce temps, ils ont fait faire à la mairie des travaux pour acheter les chaises, les tables, etc. On voit bien l'incohérence de la politique éducative qui a été menée pendant 5 ans. Nous, sur l'éducation, le programme, il est clair. C'est recrutement dès la rentrée de septembre de 1000 professeurs et puis sur les 5 ans qui viennent de 60 000 professeurs, infirmières scolaires, médecins scolaires parce qu'il faut remettre de la présence adulte dans l'école. Et puis pour bien former les jeunes, il faut apprendre à apprendre. Il faut apprendre à transmettre le savoir. Donc nous allons rétablir une véritable année de formation pour les maîtres, pour les professeurs des écoles et professeurs dans le secondaire notamment. Et puis sur la justice des mineurs, je suis désolé, moi-même je suis quand même juriste et je crois qu'il est nécessaire dans notre pays que l'on ne traite pas de la même manière un mineur et un majeur. Et je crois qu'il faut maintenir une justice spécifique pour les mineurs.
C'est ce
même
qu'il
si
fait.
J'entends qu'effectivement... Un jeune de 14 ans aujourd'hui, c'est pas le jeune de 14 ans dans les années 50.
On touche un chèque, c'est ok.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.